Je vous invite à ouvrir votre Bible en l'épître aux Hébreux, au chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. La plupart du temps, quand nous faisons des choix, que nous avons des décisions à prendre, sur quelle base les prenons-nous? Je crois que naturellement, souvent on prend nos décisions, nos choix sur ce qui nous semble aller de soi, sur ce qui nous semble plus naturel. Parfois, sur ce qui nous procure un certain confort ou ce qui est peut-être le plus approprié à nos propres circonstances. Par exemple, nous décidons de venir au culte ou non, ou à l'étude biblique ou non, selon notre état de fatigue. On entend parfois « j'étais fatigué, donc je ne suis pas venu ». Ce qui a présidé à ce choix et à cette décision, c'est notre état physique. Parfois, nous décidons ou non de donner des offrandes ou des dîmes selon les dépenses que nous aurons dans le mois. Et donc, c'est notre situation, dans le mois qui va décider un peu ce que nous allons faire. Parfois, nous disons que nous lisons la Bible ou nous méditons si nous avons le temps. Parfois, on n'a pas le temps. Il faut se réveiller, aller au travail. La journée passe, les choses deviennent difficiles. Et on n'a pas forcément le temps pour cela. Mais nous arrive-t-il de considérer les choses sous un autre angle? C'est-à-dire, au lieu de les considérer sous l'angle de notre confort, de notre état, de nos moyens, de notre temps, est-ce qu'il nous arrive de penser aux choses sous l'angle de l'obéissance à Dieu? C'est-à-dire, dans tout ce que je vais faire, est-ce que ce qu'il y a comme fondement derrière, motivation derrière, c'est l'obéissance à la parole de Dieu? Le premier souci est-il celui de la fatigue, de mes dépenses, de mon temps, ou mon premier souci est-il d'obéir à Dieu? Ça change tout. Ça change tout. Et nous voyons que si nous posons comme souci premier le fait d'obéir à Dieu, d'autres circonstances que nous avons considérées auparavant vont passer au second plan. Nous avons loué le Seigneur ce matin parce qu'il est l'auteur d'un salut éternel. Mais avez-vous remarqué dans le verset que nous avons lu, je crois que le frère nous a fait remarquer au moins une partie déjà de cela, mais dans le verset que nous avons lu, je relis donc, et ce sera le texte de notre méditation ce matin, Hébreux chapitre 5, et au verset 7, il est dit, c'est lui, c'est Jésus, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, mais qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous avez vu, il y a un mot qui revient deux fois, ici c'est l'obéissance. Et je vais vous poser deux questions. Pourquoi Jésus est-il l'auteur d'un salut éternel? Le texte nous dit parce qu'il a été élevé à la perfection en raison de son obéissance qu'il a montrée, qui a été perfectionnée dans la souffrance. Et ma deuxième question est celle-ci. Pour qui Jésus est-il l'auteur d'un salut éternel, le texte est clair, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Et on voit dans ce texte que le salut éternel pour lequel nous avons loué le Seigneur ce matin est lié à une double obéissance. L'obéissance de Jésus et l'obéissance des pécheurs. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Pas de salut sans obéissance ». Pas de salut sans obéissance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a pour but de montrer, il veut montrer en tout cas, que Jésus a toutes les qualifications pour être le grand souverain sacrificateur. On l'a dit tout à l'heure, le souverain sacrificateur garant d'une alliance plus excellente, le souverain sacrificateur qui sauve, qui peut sauver parfaitement, qui demeure éternellement, qui sauve éternellement. Ici. Mais il montre au chapitre 5 qu'il a ses qualifications parce qu'il est le souverain sacrificateur qui a appris l'obéissance parce qu'il a souffert et qui a été donc élevé à la perfection par ses souffrances et qu'ainsi il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Je voudrais considérer deux choses ce matin. Premièrement, c'est que le salut est intimement lié à l'obéissance de Christ. Le salut est intimement lié à l'obéissance de Christ. Bien qu'il fût fils, nous dit le texte, l'auteur met l'accent ici sur le rang extrême qu'a Jésus-Christ, le rang le plus élevé. Il est la seconde personne de la Trinité et pourtant il n'a pas été exempté d'obéir. Pour devenir le grand souverain sacrificateur, il a dû obéir. Normalement, c'est l'esclave qui obéit, ce n'est pas le fils. Le fils, il donne des ordres. Les autres, ils obéissent. Hein. Le diable, quand il tente Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Si tu es fils de Dieu, qu'est-ce qu'il demande de faire ? Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donne ton ordre, tu es fils. Fais partie de la maison, donne ton ordre. Les choses t'obéissent ici. Mais ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que bien qu'il fût fils, eh bien, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, on pourrait se dire, mais Jésus qui obéit, qu'est-ce que ça veut dire ? Et son obéissance, nous, quand on parle d'obéissance pour nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous passons d'un état de désobéissance à un état d'obéissance. Nous sommes plutôt désobéissants et nous apprenons à obéir. Quand des parents apprennent aux enfants à obéir, au début, c'est parce qu'ils n'obéissent pas. Ils font le contraire et après, il faut les corriger pour qu'ils reviennent sur le droit chemin et qu'ils apprennent à obéir. Donc, on passe, nous, en tant qu'êtres humains, de la désobéissance à l'obéissance au fur et à mesure. Mais pour Jésus, ça n'est pas le cas, parce que lui, il n'a jamais, jamais désobéi. Il a été semblable à nous en toutes choses, la Bible le dit, dans Hébreux, il le dit, mais, Hébreux 4:15, mais il n'a jamais commis de péché, il n'a jamais été désobéissant. Donc, son apprentissage de l'obéissance n'était pas une progression ou un passage d'un état de désobéissance à l'obéissance. On pourrait dire plutôt que c'est un apprentissage de l'obéissance au sein même de l'obéissance, presque. Il a toujours obéi. Mais on peut obéir et grandir dans l'obéissance. Jésus a obéi quand il était petit enfant, il a obéi quand il était ado, il a obéi quand il était adulte. Et dans toutes les phases de son développement, l'obéissance n'a pas été avec la même difficulté. Les circonstances rendent plus ou moins difficile l'obéissance, n'est-ce pas ? Si vous dites à votre enfant, voici les clés de la BMW, supposez que vous en ayez une, va me faire les courses au supermarché et passe par l'autoroute. Ses yeux vont faire, hein, ting-ting. Ça ne sera pas difficile d'obéir à cela. Il pense déjà, la 130, il va pouvoir utiliser dans une belle voiture confortable, puissante, etc. Ça ne sera pas un problème pour lui d'obéir. Il va le faire, il va obéir. S'il le fait, il obéit. Mais si vous lui dites, va me faire les courses en prenant le bus. Peut-être que là, il va dire, j'ai pas le temps, j'ai des devoirs, etc. Attendre le bus, il pleut. Enfin, vous voyez, les circonstances font que l'obéissance sera plus difficile. Voyez. Donc l'obéissance, quelque part, est liée aussi aux circonstances que l'on vit. Et la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire que Christ, en venant dans ce monde, il a expérimenté la souffrance. Une souffrance de plus en plus grande, et il a montré une obéissance toujours constante au sein même de ces souffrances-là. Il a quelque part grandi en obéissance. Hein. Quand Marie et Joseph sont venenus le chercher, ben il est revenu. On lit ça dans l'évangile de Luc, hein, chapitre 2. Il est revenu avec eux. Et puis, quand il était dans le jardin de Gethsémané, il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et puis après, il a ajouté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'obéissance était plus difficile, là. Au point qu'il a prié, que s'il avait un autre moyen, eh bien que le Père lui épargne cette souffrance. Mais le texte dit que Jésus a montré une obéissance. Il a appris l'obéissance par toutes les choses qu'il a souffertes. Sa vie même sur la terre était une vie de souffrance. Le prophète Ésaïe dit que c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il a appris à obéir d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. C'est un apprentissage pour lui. Étant dans son corps, il était soumis aux conséquences de la chute. Et il a expérimenté la souffrance et a dû apprendre à se soumettre, souffrance après souffrance, à la volonté du Père, dans des circonstances qui devenaient toujours et toujours plus douloureuses. La Bible parle ici, on a vu, les choses qu'il a souffertes. Certains textes disent les souffrances multiformes. Dans tous les aspects de sa vie, il a connu la souffrance. Il y avait la souffrance terrible de la croix, mais il y a eu la souffrance de la vie aussi. Hein, il a connu la souffrance relationnelle, émotionnelle aussi, comme nous pouvons connaître. Il a eu des amis qui l'ont abandonné. Hein, et il en a certainement souffert. Il a connu la souffrance de la faim, de la soif. Il a connu toutes les souffrances. Il a connu toutes les tentations. Et dans chacune de ces choses, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance. Jésus expérimente que se soumettre à la volonté de Dieu et obéir à la volonté de Dieu provoque la souffrance. Il avait dit dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit qu'en rentrant dans ce monde, en s'incarnant, il a dit, voici, je viens au Dieu pour faire quoi ? Ta volonté. Je viens pour obéir. C'est ce qu'il avait dit. Et le texte nous dit que dans les jours de sa chair, il a goûté à la souffrance que provoque l'obéissance. Et il crie même à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Il crie avec larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Mais il a supplié, on le voit dans le jardin de Gethsémané, surtout que la volonté de Dieu soit faite et qu'il soit rendu capable de se soumettre à cette volonté. Et Hébreux nous dit que Dieu l'a exaucé. Il est mort, mais il a obéi, il a marché jusqu'au bout dans le chemin d'obéissance. Philippiens 2 nous dit la même chose. Étant en forme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il est devenu comme un, la Bible dit, hein, il s'est dépouillé, d'accord, lui-même, en prenant une forme de serviteur, qu'il est devenu comme un homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il est devenu obéissant. Donc c'est un apprentissage de l'obéissance qu'a connu Jésus à travers la souffrance. Mais je veux surtout souligner ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ici, souligne dans ce verset que nous avons lu, qu'il y a un lien étroit entre l'obéissance de Christ et le salut. Ce qui fait de la mort de Christ une mort expiatoire, c'est pas simplement qu'il est mort sur la croix. Il y a des personnes qui sont, à l'époque de Jésus, aussi mortes sur la croix, même en même temps que Jésus. Rappelez-vous, il y avait deux brigands qui étaient aussi pendus au bois, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais qu'est-ce qui fait que la mort de Christ est une mort expiatoire? C'est parce que c'est la mort du seul juste obéissant, qui a été obéissant jusqu'au bout, qui a pu vivre une vie juste, une vie parfaitement obéissante, et qui a pu offrir cette vie en sacrifice pour le péché. L'Écriture présente le cœur de l'œuvre du salut toujours intimement lié à l'obéissance de Christ. Je vous ai lu déjà tout à l'heure Philippiens, chapitre 2, où il dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Mais en Romains, chapitre 5, verset 19, par exemple, l'apôtre Paul dit ceci, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Vous voyez ici, donc ce qui est mis en évidence ici, en rapport avec le salut, en rapport avec la justification par la foi, c'est l'obéissance de Christ. Par la désobéissance, je relis le verset, beaucoup ont été rendus pécheurs, la désobéissance d'un seul, d'Adam, de même par l'obéissance d'un seul, de Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Donc on voit ici que le salut éternel, accompli par Jésus-Christ, est intimement lié à l'obéissance parfaite de Jésus-Christ en toutes choses. Les théologiens qualifient souvent par deux termes l'obéissance de Jésus-Christ, un qu'ils appellent obéissance passive et l'autre obéissance active. Ça ne veut pas dire que Christ a été passif, mais c'est une manière de dire que de définir par l'obéissance passive le fait que Christ a souffert pour nous, qu'il a subi les souffrances. Il ne les a pas subies passivement, mais il les a acceptées. Il s'est soumis à toutes les souffrances de l'incarnation, de la vie, de ce que Dieu exigeait. Il les a toutes subies durant sa vie, et particulièrement à la croix. Quand on lit Ésaïe 53, on voit combien Christ a souffert. Hébreux 5:8 que nous venons de lire ici. Et puis, si vous regardez Hébreux 12, verset 2, il dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Il a souffert tout ce qu'il y avait à souffrir dans sa vie incarnée ici. Et on appelle ça l'obéissance passive. Mais si on s'arrêtait là, il a subi la croix, il est mort pour nous. Mais si on s'arrêtait juste là, si Jésus n'avait fait que mourir pour nous, on a fait remarquer qu'on serait devenu juste comme Adam, innocent, mais sans justice propre. Parce que pour le salut, il faut l'obéissance à la parole de Dieu et à la loi de Dieu. La loi dit quoi? Elle dit, fais ceci et tu vivras. Et donc, il faut vivre une vie d'obéissance parfaite pour pouvoir être accepté de Dieu. Mais personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Personne ne peut vivre la loi de Dieu parfaitement. Aucun homme ne peut faire cela. Et donc, si Christ a juste souffert, il a pris la pénalité, le châtiment que méritait notre crime, il a payé pour nous, certes, nous sommes juste, comme quelqu'un disait, avec une page blanche, mais sans vie d'obéissance à présenter ici. Il a fallu que Christ vive parfaitement dans l'obéissance afin de nous offrir cette obéissance-là, afin que son obéissance nous soit imputée. Et c'est ce qu'on appelle cette justice de Dieu qui nous est imputée. Cette vie juste, obéissante de Jésus est imputée à celui qui croit. Donc il y a deux choses dans l'obéissance de Christ. C'est le fait qu'il ait accepté toute cette souffrance, mais il y a le fait qu'il se soit soumis à toute la loi de Dieu et qu'il a positivement et activement obéi à la loi de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'obéissance active de Christ. Christ a subi toutes les souffrances inhérentes à notre péché, y compris la mort de la croix, mais il a vécu de manière obéissante pendant les 33 ans de sa vie en obéissant parfaitement à toute la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, c'est pour cela qu'il a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? Et qui c'est qui a levé le doigt? Personne. Même Pilate, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne trouve rien dans cet homme, il n'y a rien qui mérite la mort. Même un païen était capable de voir qu'il n'y avait absolument rien qui mérite la mort dans la vie de Jésus. Aucun travers, aucun péché, absolument rien. Une vie parfaite d'obéissance. Il a accompli à la lettre toute la loi de Dieu. Et c'est cette vie d'obéissance qui nous est offerte. Et donc, il n'y a pas de salut sans obéissance, sans l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ est intimement liée à notre salut. Christ a vécu sans péché et il a obéi chaque jour aussi aux exigences de la loi de Dieu, afin que cette vie juste nous soit imputée, qu'elle soit imputée à celui qui croit. C'est ce que dit Romains 5, 19 que nous avons lu, hein, car par... C'est pour ça qu'il n'est pas dit simplement par la mort d'un seul. Certes, nous sommes sauvés par la mort, hein, le Christ qui expie notre péché, mais aussi par sa vie. Il a vécu avant de mourir. Et c'est pour cela qu'il est dit que par l'obéissance d'un seul, l'obéissance, c'est l'obéissance de la croix, mais c'est l'obéissance de toute la vie qui a observé parfaitement la loi de Dieu. Ça, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il devient l'auteur d'un salut éternel. Mais deuxièmement, je voudrais souligner, après avoir considéré le fait que l'obéissance de Jésus est intimement liée au salut, je voudrais souligner que l'obéissance du croyant est la conséquence aussi du salut. L'obéissance du croyant est la conséquence du salut. Pour qui Jésus est-il l'auteur d'un salut éternel? Est-ce qu'il est dit, Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tout le monde, peu importe qui c'est? Non, c'est pas ce que le texte dit. Il dit, il est devenu pour, verset, je reprends le verset donc 8 de Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 5, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Tous ceux qui lui obéissent. Donc ici, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui obéissent. Mais il ne faut pas quand même nous tromper sur le sens. Personne n'obtient le salut par sa propre obéissance. On est sauvé comment? Par grâce, par le moyen de la foi. D'accord? Et cela vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ce n'est pas par nos œuvres, ni même nos œuvres d'obéissance, que nous pouvons être sauvés. On peut accomplir tout ce que l'on veut, on ne peut pas de toute façon être parfait devant Dieu en comptant sur notre propre obéissance. Nous avons besoin de l'obéissance de Christ. C'est pour cela que Christ a vécu cette obéissance, pour qu'elle nous soit imputée. Mais cela étant dit, ici, ceux qui, pour qui Christ est la source du salut, sont caractérisés par leur obéissance. C'est comme quand l'apôtre Paul dit qu'on est sauvé par la foi, par le moyen de la foi, et pas par les œuvres. Et l'apôtre Jacques dit, mais montre-moi, d'accord, tes œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par les œuvres. Une véritable foi engendre de bonnes œuvres. Ici. Et l'apôtre Paul le dit au passage même où il dit qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais il dit que nous sommes l'ouvrage de Jésus-Christ ayant été créé pour quoi? pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, celui qui est sauvé par la foi en Christ, il produit de bonnes œuvres. Les œuvres, bonnes œuvres, sont valide la vraie foi. Et quelque part ici, l'auteur dit que l'obéissance du croyant valide qu'il est bien au bénéfice du salut éternel. Et donc, je ne peux pas lever les bras en disant « Dieu, il m'aime, Dieu est mon père, je suis son enfant, peu importe ce que je fais. » Non, je dois me poser la question « Est-ce que j'obéis à Dieu ? » Est-ce que je suis un enfant obéissant ? Et la Bible souligne le fait que l'obéissance de l'enfant de Dieu est liée aussi à son salut. 1 Pierre chapitre 1 versets 1 et 2. Je vous laisse chercher 1 Pierre chapitre 1 versets 1 et 2. L'obéissance est la conséquence du salut. Je le dis au même titre que les œuvres sont la conséquence de la foi. 1 Pierre 1 versets 1 et 2. Il dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. » Et la phrase qui vient après, c'est quoi ?« Afin qu'ils deviennent » quoi ? On le dit bien fort, je n'ai pas entendu. « Afin qu'ils deviennent obéissants. » Choisi par Dieu bien avant la fondation du monde, par la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc on est choisi par Dieu pour devenir obéissant. Et il n'y a donc pas de salut sans obéissance de celui qui prétend être au bénéfice du salut éternel de Dieu. Et cette expression de Pierre concernant l'obéissance et l'aspersion du sang évoque ce qu'on lit dans l'Ancienne Alliance avec Moïse, où obéissance et sang de l'Alliance étaient aussi étroitement imbriqués. Exode chapitre 24, regardez Exode 24. Rapidement, Exode chapitre 24, et nous pouvons lire à partir du verset 3, verset 1 déjà, jusqu'au verset 8. Il est dit « Moïse, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, Exode 24, et vous vous prosternerez de loin. » Verset 2. « Moïse s'approcha seul de l'Éternel, et les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il avait mis dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, tout le peuple, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » D'un côté, l'alliance que Dieu accomplit, qu'il ratifie par le sang, c'est ce que nous rappelons quand nous prenons la Sainte Cène, l'alliance que Christ a ratifiée par son sang. Mais de l'autre côté, le peuple qui dit quoi ? Nous allons obéir. Les deux choses vont ensemble. Et c'est ce que Pierre dit quand il dit ici qu'on est choisi par la sanctification de l'Esprit afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et donc l'obéissance du croyant manifeste qu'il est vraiment au bénéfice du salut accompli par Jésus-Christ ici. L'apôtre Paul dit ceci aussi en Romains 1, verset 5, il dit, il parle de son apostolat et il dit qu'il a été choisi par Dieu, qu'il a reçu de Dieu l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Vous voyez ici, hein, la foi et l'obéissance sont liées. On dit, ah oui, mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Oui, mais cette foi implique une obéissance. Parce que Paul dit que son ministère que Dieu lui a confié, c'est d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Quand ils ont une véritable foi, cela se traduit par l'obéissance à Dieu dans tous les domaines. Et c'est ce qu'il souligne ici dans ce passage. Encore ailleurs, en Romains 15, verset 18, il dit ceci, je vous lis, « Car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. » Il dit, je n'oserai pas dire tout ce que Christ a fait par moi dans le but d'amener les païens à l'obéissance. Donc le vrai salut se traduit par une vraie obéissance dans la vie. Romains 6, verset 17, un dernier verset, ici je vais lire. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, » voilà, là il parle du salut, hein, « avant de connaître Christ et après qu'on ait connu Christ. » Alors je relis, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Ce qui caractérise un vrai chrétien, c'est qu'il obéit à la doctrine. Il obéit à la parole de Dieu. Et cela est attendu de lui. Ici. Christ a obéi pour accomplir le salut éternel. Et celui qui reçoit ce salut éternel, cela se manifeste dans sa vie par l'obéissance aussi à Dieu en toutes choses. Le dessein de Dieu lui-même est de rendre chacun capable d'obéir. Et l'obéissance, on le sait, est le but de la sanctification dans la vie aussi du croyant. Il n'y a pas de salut sans obéissance. Le peuple d'Israël a échoué. Où est-ce qu'il a échoué? Il a échoué en ce qu'il n'a pas été capable d'obéir à la loi de Dieu. Il y avait d'un côté la loi de Dieu et Dieu dit, si tu obéis, voici les bénédictions. Si tu désobéis, voici les malédictions. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est incapable d'obéir à la loi de Dieu sous l'enseignement. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a établi une nouvelle alliance. Et quelle est la particularité de cette nouvelle alliance? On le lit dans Ézéchiel, dans Jérémie. C'est que Dieu, il fait quoi? Il met sa loi, non pas à l'extérieur en disant au peuple, tu vas obéir à cette loi, mais il fait quoi? Il met sa loi dans leur cœur. Regardez ça dans Ézéchiel, regardez rapidement Ézéchiel. Je veux que vous le voyez vous-même. Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 26. Ça, c'est la déclaration d'Ézéchiel sur la nouvelle alliance. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. » C'est ça, la nouvelle alliance. Dieu donne son esprit il met sa loi dans le cœur et il agit lui-même en sorte que ses enfants puissent obéir à sa loi. Donc, c'est l'œuvre de Dieu que de nous faire obéir. Donc, quand on est véritablement au Seigneur, qu'est-ce que l'on fait ? On obéit. Cela, bien sûr, il y a des moments où ça flanche, etc. Mais l'enfant de Dieu est caractérisé par son obéissance, parce que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, c'est de rendre obéissant. C'est de faire en sorte que le croyant soit maintenant capable d'observer la loi de Dieu, ce que le peuple d'Israël n'a pas pu faire, parce que la loi n'était pas au-dedans de lui, et Dieu n'avait pas placé de la même manière les choses. Et c'est pour cela qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux que la nouvelle alliance est bien meilleure. D'accord ? Parce qu'elle est sur de meilleures promesses. Quelles sont les meilleures promesses ? Eh bien, celle-là, vous avez vu combien de fois il est demandé à l'homme de faire quelque chose ici ? Zéro. Et où Dieu dit, je ferai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez ou que vous obéissiez, pratiquiez mes lois. Il fait tout. Il fait tout. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il est à l'initiative, il est au déroulement, il sera aussi à la fin. Il fait tout. Donc ce qui caractérise vraiment un enfant de Dieu, c'est l'obéissance, parce que Dieu agit pour qu'il puisse obéir. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit en 2 Thessaloniciens 3:14, à la fin de sa lettre, il dit, si quelqu'un n'obéit pas à tout ce que nous disons dans cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il en éprouve de la honte. Il est en train de dire que si un croyant dans une assemblée vit d'une manière désobéissante et ne se soumet pas à la parole de Dieu qui est écrite, ni aux exhortations qu'il reçoit des autres, de ses pasteurs, etc. Il dit, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Et certainement, ce qu'il veut dire, c'est dans le but qu'il revienne à une réalité, qu'il revienne, qu'il se repente. Parce que c'est le propre d'un enfant de Dieu d'obéir. S'il n'obéit pas, il n'a aucune assurance qu'il est au bénéfice du salut éternel. Le salut éternel a été accompli parce que Christ a obéi en toutes choses. Et quand ce salut éternel est apposé sur un individu, eh bien, il devient obéissant. Pas parfaitement, c'est progressivement. Un jour, il sera délivré du péché, il sera parfait. Mais il mène une vie dans laquelle il cherche à obéir à Dieu. Chaque fois qu'on lui montre quelque chose, il est enseignable, il écoute, il dit « Oui, je reconnais que j'ai péché dans cela, je me repens. » Il change de conduite. Mais s'il reste, il demeure dans son état en disant « Après tout, je suis un enfant de Dieu, je n'ai aucun risque. » Il est dans un grand danger. Parce que ce qui caractérise ceux qui ont le salut éternel, c'est qu'ils, nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est qu'ils obéissent. L'obéissance est au cœur du salut. Il a fallu que Christ obéisse parfaitement pour nous assurer un salut éternel. Mais l'obéissance manifeste aussi. L'obéissance est un indicateur fiable de notre appartenance à Christ. Si on pêche aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un enfant de Dieu. Mais si on pratique le péché, on est désobéissant, on refuse de se repentir, on est en grand danger, on n'a aucune assurance qu'on est un enfant de Dieu. Parce que le salut éternel se manifeste par une obéissance. Christ a choisi pour rendre obéissant ce qu'il a choisi. Alors, quelques applications pour terminer, chers frères et sœurs. Nous devons louer le Seigneur Jésus-Christ pour son obéissance parfaite. Nous devons le louer pour cela. Comme on l'a fait ce matin, on l'a loué pour le salut éternel. Mais nous devons le remercier d'avoir accepté dans la soumission, dans l'obéissance au Père, toutes les souffrances qu'impliquait l'incarnation et l'expiation de notre péché. Et elles sont grandes. elles sont grandes. L'Épître aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Lui, il l'a fait. Nous n'avons pas fait ça. Lui, il l'a fait. Il a subi des souffrances extrêmes. Il est passé par toutes les tentations. La Bible dit, aucune ne lui a été épargnée. La seule différence, c'est qu'il n'a pas commis de péché. Il a toujours été obéissant. Et grâce à cette obéissance, à travers de la souffrance, eh bien, il procure, il devient l'auteur, la source d'un salut éternel. Nous devons le louer pour cela. Nous ne devons pas oublier que nous prions de le remercier parce qu'il a été obéissant. Parce que c'est cette obéissance qui nous est comptée. Quand Dieu regarde à l'obéissance de Christ, et nous devons le louer pour cela. Il est le grand souverain sacrificateur qui convient, comme le dit Hébreux chapitre 2, il dit qu'il, je le lis hein, juste comme ça, il dit au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé à la perfection par les souffrances le prince du salut. Il l'a élevé à la perfection par les souffrances. Et lui, il a été obéissant dans toutes ses souffrances afin de devenir la source d'un salut éternel. Qu'il soit loué pour cela. Mais un deuxième point d'application que je voudrais faire, c'est que ce passage nous pousse à examiner notre vie. Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que l'on vient à l'église chaque jour? Est-ce que l'on chante à tue-tête? Ou est-ce que l'on joue au piano? Ou est-ce que l'on prêche au pupitre? C'est pas ça la question. La question, c'est pour nous, c'est est-ce que nous sommes obéissants? Ce que Dieu cherche, c'est notre obéissance. Ce qu'il produit, c'est l'obéissance. Ma vie est-elle marquée par l'obéissance au Seigneur? Ou par l'obéissance à mon état d'âme, l'obéissance à ma santé, l'obéissance à, aux circonstances, l'obéissance à la voiture en panne, l'obéissance que sais-je? Ou est-ce que ma vie est marquée par vraiment le désir d'obéir à Dieu? Quand il dit « Rassemblez-vous », est-ce que mon souci c'est d'obéir à cela? Quand il dit « Priez sans cesse les uns pour les autres », est-ce que mon souci c'est de prier pour les autres? Quand il dit « Aime ton prochain comme toi-même », est-ce que mon souci, c'est cela? Quand il dit « Tu ne te sépareras point de ta femme », est-ce que mon souci, c'est d'obéir à ce commandement-là? Ou est-ce que mon souci est de dire bah, « Tu sais pas, les circonstances sont telles que c'est impossible. » Notre fatigue, nos ressources, notre temps, notre travail, combien cela pèse face à l'obéissance à Jésus-Christ, dans tous ses commandements. Peut-être vous êtes là, vous n'êtes pas encore baptisé. Vous dites, je suis un enfant de Dieu. Oui, je le sais. Mais vous refusez de vous faire baptiser. C'est-à-dire, vous refusez d'obéir. Vous n'avez aucune assurance que vous êtes dans la vérité si vous n'obéissez pas. Parce que le salut produit l'obéissance. Si vous ne le saviez pas, peut-être, mais on vous le dit. Ah, on se repent et on obéit. Peut-être vous ne participez pas à la Sainte-Cène. Vous dites, je suis un enfant de Dieu, je suis baptisé, mais je ne participe pas à la Sainte-Cène. Pourquoi? Non, parce que je sais que bon, c'est pas, tout n'est pas au clair et je ne veux pas le faire. C'est bien, hein, dans un certain sens, mais en même temps, il faut corriger le problème qui empêche d'obéir à la parole de Dieu. Il y a plein d'autres domaines où on peut se poser toutes ces questions. Est-ce que je suis obéissant? La question, ce n'est pas est-ce que je sers? La question, c'est est-ce que je suis obéissant? Chaque fois que je connais le commandement de Dieu, je connais sa parole, je connais ce qu'il faut faire, que ce soit à l'école, au travail, dans le foyer, partout, est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu? Et puis ma dernière remarque est une question. Jésus est-il l'auteur d'un salut éternel pour vous? Peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Est-ce que vous lui obéissez en venant à lui dans la repentance et dans la foi? Comment sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Une vraie foi en Jésus-Christ, on l'a dit ce matin. Et par une vraie repentance conformément aux Saintes Écritures. Est-ce que vous êtes venu à Christ dans la foi et la repentance? Je ne vous demande pas combien de sermons vous avez écoutés. Je ne vous demande pas combien de fois vous êtes venu à l'église. Je ne vous demande pas est-ce que vous aimez venir à l'église? Est-ce que vous aimez la compagnie des chrétiens? Ce n'est pas ça la question. La question c'est est-ce que vous pouvez dire que Jésus est pour moi l'auteur d'un salut éternel, parce que j'ai placé ma confiance en lui conformément à ce qu'il commande. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. L'ai-je fait et j'obéis à cela. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai obéi à cela? Je le sais, je l'entends, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que je l'ai fait vraiment? C'est la question qui se pose à nous. Écoutez ce que dit l'Écriture. 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 8. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, à n'importe quel moment, ça peut être tout à l'heure, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les paroles de Dieu. Il dit que Jésus va apparaître avec ses saints anges dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, c'est la même chose, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Parce que connaître Dieu, c'est le salut. Le salut, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Donc ne pas connaître, c'est ne pas obéir à l'évangile de Dieu. Et puis ailleurs, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, où on avait étudié ce passage, où il est question que les enfants de Dieu même doivent mettre leur vie en règle avec Dieu, parce qu'il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'obéissance est quelque chose d'extrêmement important. L'obéissance, venir à Dieu, c'est bien d'écouter, de venir, d'assister, d'entendre. Mais l'évangile ne nous demande pas de faire que cela. Elle dit quoi? Elle dit, crois. Elle dit, repens-toi, place ta confiance en Jésus-Christ. Et si tu ne l'as pas fait, tu es en danger de subir le jugement de Dieu. Tu ne peux pas dire, même si tu as chanté Jésus est la source, l'auteur d'un salut éternel, il ne l'est pas pour toi, parce que tu n'as pas placé ta confiance en lui. Mais si tu places ta confiance en Jésus-Christ, si tu obéis, tu le saisis, il l'est pour toi à ce moment-là, parce qu'il dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Mais si nous sommes encore en vie, c'est que Dieu il nous fait grâce et il nous donne l'occasion aujourd'hui de nous repentir. Il vous donne, si vous ne le connaissez pas encore, l'occasion aujourd'hui de vous repentir. Alors ne prenez pas le risque de repartir d'ici en vous bornant simplement à écouter. Mais dites, je veux placer ma confiance en Jésus-Christ. Je veux lui demander de me sauver. Je veux lui demander son esprit qui fait de moi son enfant. Pas de salut sans obéissance à Dieu. Jésus est le grand souverain sacrificateur obéissant, qui est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Alors que nous ayons par lui la grâce de manifester cette obéissance dans notre vie, soit en venant à lui pour le salut, soit en continuant à venir à lui pour notre édification jour après jour. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Et nous te prions que nous ne nous trompions pas nous-mêmes par de vaines illusions, mais que nous nous appuyons sur la vérité de ta parole pour juger de notre véritable état, nos véritables positions devant toi. Nous te remercions, nous te louons de ce que, ô Jésus, tu as été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Merci parce que tu n'as pas reculé devant les souffrances les plus terribles. Tu n'as pas reculé devant même l'abandon du Père, mais tu as obéi même là, afin de devenir l'auteur d'un salut éternel. Et nous te remercions, nous l'avons chanté ce matin, de ce que tu ne donnes pas un salut temporaire, un salut imparfait, mais tu donnes un salut parfait et qui dure éternellement. Mais nous comprenons aussi dans ta parole que ce salut produit des enfants obéissants. Et c'est comme enfants obéissants, tu veux que nous nous approchions de toi. Nous te prions de nous donner, de soumettre notre volonté à la tienne. Et par ton esprit, agis en nous afin que nous soyons obéissants en toutes choses, Seigneur Dieu. Nous te prions que tu nous donnes de pouvoir nous repentir là où tu nous montres notre désobéissance, mais que notre vie d'enfant de Dieu soit vraiment caractérisée par l'obéissance à ta parole dans tous les aspects de notre vie. Nous te prions de faire ton œuvre en nous pour ta gloire et pour notre bien. Amen.